Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
24 février, 11h30, c'est la chronique du groupe Fred Zeller avec Jean-Louis. Et aujourd'hui, je vais aborder plusieurs sujets parce que l'actualité est tout à fait abondante. Et il y a des prolongements de plusieurs sujets que j'ai évoqués dans de précédentes chroniques. Alors, tout d'abord, la semaine dernière, j'évoquais la question de ce qui se passe à Bétaram et le rôle joué par le Premier ministre. Et j'avais lu notamment une lettre d'Angleterre de notre ami Case Porcé-Woodwood et également un texte de la Fédération nationale de la libre pensée. Nous avons reçu également des courriers venant d'Espagne et d'Amérique, des États-Unis, et je vous lis chacune de ces lettres qui sont assez courtes. Lettre d'Espagne, c'est une lettre de Pablo Toralp, qui est le président d'Europa Laica, donc en Espagne. Et voilà ce qu'il nous dit. La lecture de la description des abus physiques et sexuels commis au centre éducatif catholique de Notre-Dame de Bétaram est troublante. Pour un Espagnol, ce qui s'y passe nous renvoie aux descriptions des pires années de la dictature franquiste, où les centres éducatifs aux mains de l'Église catholique avaient une totale liberté d'action et pouvaient cacher les abus en toute impunité grâce à la complicité institutionnelle qui a permis de dissimuler les crimes qui y ont été commis. Mais le plus inquiétant dans l'affaire Bétaram, c'est que nous ne dénonçons pas des crimes commis il y a plus de 50 ans dans un centre financé par un régime national catholique dictatorial, mais un cas récent dans un État démocratique laïque comme la France. La complicité présumée de l'actuel Premier ministre François Bayrou, qui était ministre de l'Éducation à l'époque où de tels crimes ont été commis à Notre-Dame de Bétaram, semble avoir été déterminante pour faire taire de tels abus et ne peut être interprétée que comme une atteinte grave à sa crédibilité. Depuis l'Espagne, nous soutenons la lutte des groupes laïcs français contre les scandales de violence et de pédérastie dans les écoles religieuses. Nous espérons que les coupables seront traduits en justice et que les victimes seront entendues, traitées avec respect et indemnisées pour les crimes qu'elles ont subis. Face à ces faits, nous réaffirmons la nécessité de défendre l'école publique et laïque comme garante des droits des mineurs. Pablo Toral, président d'Europa Laica. Et puis donc une lettre qui nous vient de Rob Boston, qui est le rédacteur en chef de Church and State, conseiller spécial de l'America United for Separation of Church and State. Pardon. Voilà ce qu'il dit. Les événements horribles survenus au pensionnat Notre-Dame de Bétaram ne semblent que trop familiers à ceux d'entre nous en Amérique, où le scandale de pédophilie de l'Église catholique, vieux de plusieurs décennies, continue de se dérouler. Dès les années 1980, les autorités de la Nouvelle-Orléans ont refusé d'enquêter sérieusement sur les allégations d'abus sexuels commis par des membres du clergé, de peur d'embarrasser l'Église. Cette tendance malheureuse s'est également produite dans d'autres États et de nombreuses victimes d'abus cléricaux ont dû travailler pendant des années pour obtenir ne serait-ce qu'une certaine justice. Certains attendent encore. Une entité laïque qui se serait livrée à des crimes épouvantables de cette nature, puis les aurait dissimulés, aurait fait face à toute la force de la loi. Il en va de même pour les dirigeants de l'Église catholique. La liberté religieuse n'offre aucun refuge pour les activités criminelles et aucun individu ne devrait être au-dessus de la loi simplement parce qu'il est affilié à un groupe religieux important et puissant. Les militants laïcs en France doivent veiller à ce que ces allégations fassent l'objet d'une enquête approfondie. S'ils sont reconnus coupables, les auteurs devraient s'exposer à la peine la plus sévère prévue par la loi. Rob Boston, donc rédacteur en chef de Church and State et conseiller spécial d'America United for Separation of Church and State. Voilà. Et donc, bien évidemment, nous reviendrons dans nos prochaines chroniques sur ce gros problème, parce que je crois que nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Combien y a-t-il de Bétaram ? La question a été posée dans un média et je crois qu'effectivement, elle mérite de l'être et d'y apporter les réponses. Le deuxième sujet sur lequel nous nous sommes déjà exprimés dans cette chronique, c'est les attaques odieuses qui ont été perpétrées contre Jean Bobéro. Et Jean Bobéro a publié un article que je vais porter à votre connaissance. « Laïcité chérie, saison 2, existe-t-il un intégrisme républicain ? Et si oui, quelles en sont les conséquences ?» résumé du chapitre précédent. Le mois de janvier, dit Jean Bobéro, a été l'occasion d'un tir groupé dans divers organes, notamment Franc-Tireur et Marianne, où mon humble personne a été mise en cause façon vérité alternative. Quelqu'un que j'estime m'a demandé de trier. Au-delà des affirmations fausses, les réelles divergences pouvant exister et de m'expliquer ou de réexpliquer ma position. J'ai décidé de le faire et après avoir parlé des accommodements raisonnables, j'aborde la question de l'intégrisme républicain auquel fait allusion le portrait de Franc-Tireur. Je m'en excuse à l'avance, ces attaques m'obligent à mêler un problème général et mes travaux personnels. Mais patience, à la fin, cela permet de tirer une morale de l'histoire qui est, je crois, intéressante. L'article de Franc-Tireur est signé d'un pseudo. Son anonymat relève du secret défense. Trump a téléphoné à Poutine parce qu'il voulait savoir si ce dernier connaissait le véritable auteur du pamphlet, mais le tsar de toutes les Russies s'est révélé incapable de le lui dire. Du coup, les deux mâles ont parlé de l'Ukraine et cela craint. Bref, l'anonyme, qui, en l'étant, rend suspect tous ses petits camarades de la rédaction, aussi bien Caroline Fourest, Raphaël Eindhoven, Christophe Barbier, Tristan Bannon, David Medioni, pas Jean Garrigue tout de même. L'anonyme chevaleresque écrit, au tout début de sa diatribe, preuve que cela le titille, à propos de votre dévoué serviteur, citation, dans son vocabulaire inversé, les intégristes religieux n'existent pas, jamais, contrairement aux intégristes républicains, son expression favorite. Si d'autres accusations relèvent de la pure invention, celle-ci mêle le faux et le vrai. Le faux car c'est précisément parce que je pense voir des similitudes dans la forme du discours de certains républicains avec l'intégrisme religieux que j'ai publié en 2006, « L'intégrisme républicain contre la laïcité », publié par l'Aube. Le vrai, puisque de manière outrancière, expression favorite, il a fait allusion à ce livre. Un portrait robot de l'intégrisme républicain. En fait, seul son début traite le sujet annoncé par le titre, l'essentiel étant de, citation, « montrer qu'une autre manière de parler de la laïcité est possible ». Mais effectivement, le premier chapitre dresse un portrait robot de la forme que prend un discours intégriste républicain et qui vaut également pour tout autre intégrisme, je cite. La citation, donc, voilà c'est l'extrait que Jean Bobéro cite, la provenant donc de l'article de site qu'on a évoqué. Le schéma est le suivant. Une cause donnée se trouve valorisée au maximum. Le sujet de l'agent de la lutte et aussi son objectif propre sont très fortement idéalisés. Tous les aspects complexes de la réalité qui pourraient amener à nuancer le propos, à relativiser quelque peu la lutte menée, à tenir compte de facteurs divergents, voire contradictoires, se trouvent dévalorisés. Ainsi, les positions différentes ont tendance à être amenées à une seule considérée comme la position adverse et diabolisée au maximum. Le choix devient alors clair et tranché. Quiconque n'est pas pour moi et contre moi, les valeurs les plus hautes sont en péril, la dramatisation permet d'envisager des solutions exceptionnelles, aucun moyen terme n'est possible, tout ce qui ressemble à un compromis est un intolérable compromission. Or, on est dans la toute-puissance, il suffirait de décréter la ligne juste, de suivre pour que celle-ci se réalise sans engendrer d'effets non voulus et indésirables. Donc voilà, c'est l'extrait donc du document de Jean Bobéro. Et il reprend Jean Bobéro. Je prenais comme exemple le texte « Prof, ne capitulons pas » publié en 1989 au moment de la première affaire de Foulard, celle de Creil, par 5 philosophes accusant Lionel Jospin d'opérer un Munich de l'école républicaine et appelant à la résistance contre un nouveau nazisme. Ce type d'argumentation très médiatique, était énoncé par des auteurs prétendant défendre la haute culture contre la culture de Marx. Mais le double jeu est une des caractéristiques de ce discours. Fin de citation. Par contre, un texte de l'un des philosophes, Régis Debray. Êtes-vous démocratique ou républicain, prenant en compte, citation, différents aspects du problème, ne correspondait pas au portrait robot. En revanche, seule opposition République-Démocratie, devenue une vulgate, manifestait un durcissement idéologique. Des bouts de pensée sont amalgamés, mélangés les uns aux autres, rabotés pour leur enlever tout ce qui dépasse et donne de l'originalité au texte de Bray. Ainsi se forme, citation, un petit catéchisme laïco-républicain rempli de formules toutes faites qui va devenir le fondement implicite du discours social dominant. Voilà l'exposé de mes péchés que notre intrépide anonyme a traité de façon beaucoup trop allusive pour les exposer dans leur ampleur. Et comme la caractéristique de l'hérétique consiste à persister dans ses erreurs, j'ai le culot de croire que ce qui s'est passé depuis 2006 n'a pas démenti ce diagnostic. Au lecteur d'en juger, et surtout aux lectrices pour qui, hétérosexistes, j'ai une particulière tendresse et d'analyser dans cette optique nombre de textes récents, dont celui de Franc-Tireur, donc le fameux site qui a publié les attaques contre Jean Bobéro. Un intégrisme sans intégriste. Tel est le sous-titre que je donnais au paragraphe dressant le portrait robot. En effet, il ne faut pas confondre un portrait robot et des personnes, et on ne doit à aucun individu le qualificatif d'intégriste républicain. On risquerait alors de leur ressembler, d'adopter un discours qui corresponde au leur. Il n'est donc pas question d'englober qui que ce soit par son discours, d'étouffer ainsi son individualité. Au contraire, continuai-je, dit Jean Bobéro, il faut espérer que les dits républicains sont autres que les stéréotypes éculés et répétitifs qui peuvent sortir de leur bouche. Que lorsqu'ils vivent une relation amoureuse, ils parlent vraiment. Ils inventent des phrases merveilleuses, qu'ils savent faire l'amour en artiste, qu'ils sont souvent joyeux et pleins d'humour, que sur des tas de sujets, ils tiennent des propos passionnants. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et je concluais, des absolutistes, des intégristes, néologistes nécessaires. Et en tiriant, on peut trouver du grain à moudre dans leur dire. Ils parlent tellement de république et de laïcité qu'il leur arrive même, entre des oukases insupportables, d'énoncer des choses justes. Étonnant, non. Mais, merde au raisonnement binaire, au jugement manichéen, aux idées toutes faites médiatiquement répétées à l'infini, du moins à l'infini hexagonal. Cette prison de l'esprit, c'est cela qu'il faut vomir. Vous savez quoi ? En vieillissant, je deviens carrément méchant, comme le chante Alain Souchon, et même en m'efforçant matin et midi et soir, j'ai de la peine à imaginer l'individu de Franc-Tireur qui a la lâcheté de ne pas signer de son nom comme étant souvent joyeux et plein d'humour. En général, ces tristes cires dont le fiel déborde de leurs plumes sont ainsi parce qu'ils ont peur d'être heureux, mais sait-on jamais, laissons-lui le bénéfice d'un petit doute. Depuis 2006, il s'est passé des choses, et pourtant c'est toujours la même chanson. En 2006, je percevais que les partisans de la loi de 2004 n'allaient pas en rester là, et que la laïcité risquait de basculer de la recherche d'une égale liberté de conscience vers une conception hypertrophiée de la neutralité, moyen devenu fin en soi. Mais ce n'était pas le seul danger. Peu après, Nicolas Sarkozy, celui-là même qui allait s'atteler précisément à cette tâche, où la neutralité imposée aux élèves de l'école publique n'était plus une exception dans une liberté vestimentaire qui restait la règle générale, mais ouvrait la boîte de Pandore, prononçait au Latran, dont il devenait chanoine, et à Riyad en Arabie Saoudite, pays qui propage le salafisme partout dans le monde, deux discours dénigrant l'instituteur au profit du curé et exaltant la croyance en la transcendance. J'ai alors réagi par un autre livre, Laïcité expliquée à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ces discours, Albin Michel 2008, qui a fort déçu celles et ceux qui avaient cru, à tort, que mon livre sur l'intégrisme républicain signifiait que j'étais partisan d'une laïcité ouverte aux religions plus qu'aux convictions non religieuses. Banni du camp républicain, je me voyais en outre rejeté par des quidam qui espèrent que la crise de leurs églises, due à la sécularisation, pourra résoudre par moins de laïcité. Bof, cela ne m'a pas empêché de dormir. Par contre, poursuit Jean Bobéro, m'a beaucoup plus inquiété en 2011 l'accaparement de la laïcité par Marine Le Pen et le propos d'Elisabeth Badinter, un des cinq philosophes de 1989. En dehors de Marine Le Pen, plus personne ne défend la laïcité. Citation d'Elisabeth Badinter. je ne pouvais pas penser qu'il était partagé par celles et ceux qui, à l'époque et depuis lors, campaient sur une position analogue à la sienne. L'heure était à la fois à la lutte contre la captation de la laïcité par l'extrême droite et, si possible, au rassemblement de toute la gauche laïque, quelles que soient ses divergences internes. On était en plus en pleine campagne électorale, ce qui permettait des espérances. Dans cette optique, j'ai pondu un nouveau livre, « La laïcité falsifiée », éditeur La Découverte 2012, pour analyser point par point comment la laïcité peut être ainsi falsifiée et pourquoi on fait dire aussi facilement à la loi de séparation de 1905 le contraire de ce qu'elle a réellement dit. Dans cet ouvrage, un chapitre proposait un « programme républicain » à discuter pour refonder la laïcité face à sa lepénisation. L'intègre anonyme de Franc-Tireur ne dit mot de ces deux ouvrages. Un instant de distraction peut-être, bien compréhensible quand on passe ses nuits à écrire des articles aussi flamboyants. Le gisement de la laïcité dominante, de la laïcité dominante vers la droite, dure et d'extrême droite, n'a fait que s'amplifier depuis lors. Il devient vraiment dramatique. Mais Franc-Tireur passe son temps, soit à inventer des cols, soit à faire des allusions déformées et à des faits dont le plus récent donc date de 10 ans. J'en conclus que depuis lors, je suis un laïc irréprochable. Ainsi, il n'est dit mot de ma série de conférences, ce qui a donné lieu à la publication dans la revue Histoire, Monde et Culture religieuse, sur le thème « Quelle laïcité en France face aux attentats terroristes ?» L'écartèlement de la gauche au sujet de la laïcité me semble pour une large part responsable de sa captation par des personnes qui en font un masque pour justifier des discriminations et une politique aux effets d'annonce sécuritaire. Car dès lors que l'on gratte un peu, on s'aperçoit qu'elle se soucie, comme d'une guigne, de la préoccupation légitime de sécurité. Il est plus que jamais nécessaire et urgentissime de bâtir un large front républicain pour prôner la laïcité face à ceux qui la dévoient. Mais cela implique deux conditions préalables, insupportables aux personnes dont les propos se rapprochent du portrait robot de l'intégrisme républicain. D'une part, admettre qu'il existe des divergences légitimes en démocratie, celles-ci impliquent que les gens ne soient pas des stiones, des moutons de Panurge. Et des divergences, on peut en débattre avec calme et rationalité. Car d'autre part, il faut aussi admettre que ces divergences républicaines ne sont pas totales. Il existe des principes communs auxquels on se réfère, ceux justement qui sont les caractéristiques du régime de laïcité, même si on se différencie dans leur interprétation, et face à la gravité des périls actuels, l'heure n'est certes pas à faire la fine bouche. En 1905, il existait des oppositions idéologiques et des divergences philosophiques de fond entre les radicaux individualistes, défenseurs de la propriété privée, et pour beaucoup, se référant philosophiquement au positivisme et les socialistes jaurésiens qui privilégiaient l'action collective, souhaitaient la collectivisation des moyens de production, ne cachant pas leur référence à Karl Marx. Leur conception de la laïcité n'était pas la même. Pourtant, malgré les difficultés, jamais les dissensions ne pouvaient atteindre l'irrémédiable. Il existait des combats conduits en commun, où chacun gardait le souci de revendiquer la part qu'il considérait comme devant lui revenir. Et ensemble, ils ont adopté la loi de 1905. Jamais ils ne l'auraient votée s'ils s'étaient comportés en intégristes républicains. Puisse la leçon être retenue avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, c'est la fin de l'article publié par Jean Bobéro, qui a été publié, je crois, sur Mediapart, et que, pour lequel on donnera les références, bien évidemment, puisqu'il faut pouvoir le reprendre, j'irai peut-être avec plus de lenteur pour l'interpréter. C'est un texte extrêmement riche, mais qui pose ces questions tout à fait essentielles. Je vous propose maintenant d'en venir au choix musical de cette chronique. C'est un choix pour lequel j'ai choisi un chanteur de la région qui interprète du blues et qui l'interprète en français, ce qui est quand même très original. Et j'ai eu la chance de le rencontrer récemment. Nous avons un petit peu discuté et peut-être quelques projets vont pouvoir s'élaborer bientôt. Nous verrons ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc, il s'agit de Raoul Ficel et qui interprète les... J'ai perdu le titre. Les heures supplémentaires. Voilà. Je crois que d'ailleurs, quand il l'a chanté la dernière fois, il dit qu'il devrait peut-être remplacer les heures supplémentaires par les années supplémentaires en faisant référence à ce qui se discute autour des questions de la retraite à 64 ans et de l'abrogation de cette loi horrible. On l'écoute, Raoul Ficelle, les heures supplémentaires. Voilà, bon, donc nous aurons l'occasion de réécouter Raoul Ficelle, mais également d'autres chanteurs-interprètes que nous avons soit régionalement, soit venant d'un petit peu plus loin. Hein, je pense par exemple à Ronan, qui est également un habitué de Douche à Blues. Donc nous ferons un petit peu de pub, entre guillemets, pour ce travail qui est fait par des passionnés de blues dans la région. Et je pense notamment au festival de Douche à Blues, que je pense être quelque chose de très, très, très important. Voilà. Alors, nous allons nous retrouver lundi prochain. Nous serons le 3 mars. J'ai déjà tout plein de sujets à évoquer, notamment un sujet sur la question de la reconnaissance des crimes contre l'humanité commis par la France en Algérie. Il y a tout un appel qui est en train de se préparer pour qu'à l'occasion du 80e anniversaire du 8 mai 1945, cette reconnaissance puisse être faite, puisque la France n'a toujours pas reconnu cet aspect des choses. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et on se retrouve donc lundi 3 mars pour une nouvelle émission en direct sur Radio Libre en Périgord. Voilà, bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.